Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Donc le plaisir de vous retrouver avec Anne Isla pour parler de choses sérieuses, mais que Anne Isla, avec son talent naturel, saura démystifier. Alors on commence toujours par une citation, la citation du jour, c'est moi qui l'ai choisie. Le pessimisme de la lucidité nous oblige à l'optimisme de la détermination. C'est de Gramsci, que vous connaissez bien. Anne, thème du jour, vous avez choisi propriété et commun. On va tout à l'heure démystifier ces mots et vous allez très largement nous expliquer ce qu'il en est. Mais auparavant, alors quelques brèves. La première des brèves, c'est que je voudrais vous parler de quelque chose qui insupporte tout le monde, moi le premier d'ailleurs, quelque chose qui produit une pollution considérable mais auquel on se résigne au point de n'y plus vraiment prêter attention tant on a intégré cette fatalité. Je veux parler bien sûr du bruit. Eh bien le bruit ne fait pas que pourrir nos vies, il nous coûte aussi cher, très cher, un pognon de dingue comme dirait un certain que je ne nommerai pas, mais vous voyez à qui je pense. Il nous coûte 155,7 milliards d'euros selon l'ADEME. Alors l'ensemble des conséquences du bruit a un coût social indirect. D'abord, il perturbe notre sommeil, il perturbe notre santé mentale, il provoque des accidents cardiovasculaires et il provoque aussi de l'obésité. Ne me demandez pas comment, mais l'ADEME l'explique très bien. Et bien évidemment, ça entraîne une baisse de productivité au travail ainsi que bien évidemment des dépréciations immobilières. Ça, vous le savez, vous le vivez tous les jours. Cette calamité est majoritairement le produit à hauteur de 70% des 68% pardon, des transports et donc du trafic routier, de l'aérien et du ferroviaire. Ceux qui habitent près d'une gare ou près de rails et d'une voie de chemin de fer savent de quoi je parle. Suivi par la pollution sonore du voisinage, la musique, le jardin, les animaux, les chiens qui aboient, notamment les bricolages, 17%, et le bruit au travail, c'est 14%. Un mot là-dessus peut-être, Anne? Vous souffrez du bruit, vous aussi vous...
Non, pas tant que ça, mais il est à noter que depuis les années 90, le silence est devenu un patrimoine commun de l'humanité. C'est un bien public mondial, parce qu'on se rend compte que certaines populations n'ont jamais accès à ce bien, et ça pose des problèmes extrêmement important.
Voilà, mais qui nous, vous vivez, vous, un peu à la montagne, moi, un peu sur mes causes du Lot, on va retrouver le silence. Donc, on fait partie finalement des nantis, pour une fois qu'on est nantis sur quelque chose. Hein. Ne boudons pas notre plaisir. Une autre brève sur la filière bois française qui est en pleine perturbation. Et quand je dis perturbation, c'est un euphémisme. Alors, la faute en revient peut-être à la Chine qui, décidément, n'arrête pas de menacer le reste du monde par son expansionnisme un peu débridé, mais un expansionnisme qui entraîne en tout des besoins grandissants. Alors longtemps, elle nous achetait des grumes, vous savez, ces troncs de bois débités et des grumes avant de nous renvoyer les meubles, c'était très commode. Mais elle construit beaucoup aussi jusqu'à épuiser ses forêts, donc elle va chercher du bois ailleurs. La Russie d'ailleurs vient d'interdire l'exportation de bois en Chine, ils n'ont pas envie de se faire piller, on les comprend. Et aux États-Unis, après 45 ans de stagnation, les prix ont explosé plus de 1000% entre mai 2020 et mai 2021. Alors les Chinois se sont massivement rabattus sur la France et les prix se sont envolés. Je crois que le patrimoine français en termes de bois est de 6%, hein, donc c'est assez dérisoire. Tout le reste, ce sont des propriétaires privés. Mais bien sûr, ces Chinois ne sont pas les seuls à mettre en cause dans cette flambée des prix qui pénalise d'abord les constructeurs immobiliers, mais aussi tous ceux dont le bois est la matière première, à commencer par la filière papier. Enfin, en parler aux éditeurs ou à ceux qui font par exemple de la publicité, qui ont des gros problèmes aujourd'hui puisque leurs devis n'ont qu'une validité de vie très réduite. Sinon, ils vont, comme l'on dit, manger la grenouille. Alors, il faudrait regarder du côté également de la politique très surprenante de l'ONF, un organisme très fermé, c'est l'Office national des forêts, avec des espaces boisés non exploités, souvent mal ou pas entretenus. Peut-être, Anne, vous qui vivez un peu au milieu des forêts, vous le voyez. un bois qui est censé absorber du CO2, vous savez qu'on en a à revendre, mais qui en pourrissant, malheureusement, relâche du méthane, beaucoup plus de méthane qu'il l'absorbe de CO2, et le méthane, c'est aussi très ennuyeux. Et depuis 25 ans, le déficit commercial en bois et produits dérivés s'élève à 7 milliards, c'est pas rien. Pas d'implantation de scierie ou de fabrique de pâte à papier en vue. Une branche où la France perd plus de 2,7 milliards. Et fermeture annoncée de la deuxième usine de papier, Chapelle d'Arblay. Alors attendez-vous, là aussi un renchérissement, c'est très compliqué à dire, des prix de tous les produits issus directement ou indirectement du bois. Je crois même avoir entendu que le papier toilette était en train de flamber.
Oui, beaucoup de produits sont en train de flamber. Moi, je ne serais pas aussi sévère envers l'ONF. Et puis, quand le bois pourrit, il permet aussi d'entretenir toute une faune de petits insectes et une flore aussi. Alors, ce sujet m'a fait penser à quelque chose, moi qui vis dans les forêts, comme vous dites. Dans les Pyrénées, un projet de scierie gigantesque est en cours,
oui.
Porté par un groupe multinational italien qui s'appelle Florian, avec des volumes extrêmement importants de production forestière et de déboisement. Et par conséquent, l'ONF, justement, et une quarantaine d'associations se sont portées là-dessus, commencent à réfléchir à redynamiser la filière bois. Donc c'est quelque chose de positif pour relancer un peu et contrer ce projet de déforestation important des Pyrénées par une multinationale qui va exporter directement le bois, qui ne sera pas non plus...
Et sur des superficies, je crois, extrêmement importantes.
Gigantesques. Mais peut-être pourrions-nous reparler des forêts en tant que commun dans une émission de ces jours.
Pourquoi pas ? Alors le prix de l'énergie des matières premières flambe, là on vous apprend rien, hein. Tout le monde le constate, ne serait-ce qu'en passant à la pompe. Et les pénuries de l'une et de l'autre, ils sont certainement pour quelque chose, puisqu'il paraît, mais vous me direz si j'ai raison, Anne, hein, qui veut que rareté entraîne cherté, en principe, non, c'est pas vraiment, hein. Vous faites la moue, vous nous expliquerez tout ça. Dans le domaine de l'énergie, la chose peut quand même sembler paradoxale, on en avait parlé hors micro, puisque depuis l'installation de son parc nucléaire, c'était dans après le premier choc pétrolier des années 70, la France a développé son autonomie pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures du Golfe, et un investissement désormais amorti pour un mix électrique unique en Europe, puisque nous avons principalement du nucléaire dans des proportions inégalées et de l'hydraulique avec l'éolien et le photovoltaïque. Tout cela constitue un ensemble décarboné à plus de 90%, bien davantage que les pays voisins où la part du charbon ou du gaz, autrement polluante, est supérieure. On peut penser notamment à l'Allemagne. Donc se pose la question forcément sensible pour le porte-monnaie, pourquoi, comme des pays voisins, la France subit-elle en ce moment la hausse des prix de l'électricité alors que cette augmentation est due à une flambée européenne des cours et du gaz ? Alors je pourrais développer, mais peut-être Anne, vous allez répondre là-dessus.
Rapidement, je vais répondre rapidement. Mais en fait, la flambée des prix, elle est liée à la libéralisation du secteur électrique, hein, puisque cette libéralisation a imposé un prix de marché arrimé au cours mondial très volatil du gaz et du charbon et du prix européen du CO2. Donc cette hausse, elle provient de cette libéralisation, de cette mise en concurrence d'un marché qui ne peut pas être concurrentiel, de cette organisation d'un marché censé être unique de l'électricité. Et cette mise en concurrence s'est traduite par une désintégration des systèmes électriques nationaux, la perte de toutes les économies d'échelle et de la stabilité, allant jusqu'à pousser d'ailleurs certains producteurs à la faillite, notamment en Allemagne. Cette libéralisation s'est accompagnée de l'explosion d'une fiscalité indirecte, et le tout au profit d'une financiarisation dans le seul but donc de favoriser une concurrence qui est factice, me semble-t-il, et subventionnée. Et à cela s'ajoute qu'on n'a pas du tout investi dans de l'industrie de stockage de l'énergie, du gaz notamment. Donc voilà, on voit les prix qui flambent. Il ne faut pas tellement s'étonner de cette situation.
Et vous avez un pronostic sur cette flambée ? Elle va durer des semaines, des mois ? On va arriver à la juguler ?
Tout va dépendre d'abord des comportements des Russes par rapport à et de Gazprom par rapport au gaz. Tout va dépendre de la durée de l'hiver, tout va dépendre d'une multitude de causes. On ne peut pas prédire ce qui va se produire, surtout sur des marchés financiers.
Nous prédirons dans quelques mois,
voilà.
On dira plutôt les conclusions. Bien, nous allons passer maintenant au sujet, au noyau dur de l'émission, propriété et commun. Alors, la propriété qui a toujours existé, plus ou moins, hein, est-ce quelque chose de naturel, Anne ?
Alors, la propriété a toujours existé, plus ou moins, bien sûr, on était propriétaire de ces outils, même au néolithique, mais la propriété, elle englobe toute une série de choses. Quand on parle de la propriété, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu'on parle de la propriété que l'on obtient grâce à son travail, par exemple, sa maison, sa voiture, son vélo ? Ou est-ce qu'on parle de la propriété obtenue par le travail des autres ? Est-ce qu'on parle de la propriété sur des biens matériels, mon ordinateur, mes vêtements, ou de la propriété intellectuelle, mon savoir, mon invention, ma découverte, ou de la propriété sur le vivant, les gènes, les semences? Est-ce qu'on parle de droits de propriété, les droits de propriété, les droits à polluer, par exemple, ou des droits fondamentaux, comme les communs? La propriété regroupe toute une série de choses et on a aussi un problème, c'est le problème de l'idéologie propriétaire, comme disait Benjamin Coria, c'est-à-dire une accumulation de la propriété sans aucune limite.
Sans vous interrompre, vous avez prononcé le mot de commun, je l'ai prononcé aussi en annonçant le sujet. Qu'est-ce que c'est que les communs ?
Alors, un commun, c'est... quelque chose est commun à partir du moment où on décide de le gérer de façon démocratique et collective. Donc une terre...
Il n'y a pas beaucoup de choses de communes, alors partant de là, parce que la démocratie, c'est quand même pas très très répandu.
Non, mais par exemple, une terre, elle peut être privée ou elle peut être un commun, si elle est gérée collectivement.
Est-ce qu'il n'y avait pas plus de communs autrefois, notamment au Moyen-Âge, que maintenant ?
Si, tout à fait. Je comptais d'ailleurs
parler
de ça à un moment donné.
Mais mon idée, mais
tout à fait. La naissance. Alors on peut en parler maintenant. Hein, c'est pas un problème. Quand on passe du féodalisme au système capitaliste, on se rend compte que ce passage, il se fait par la suppression de communs et notamment la suppression de communs qui existaient sur les terres. À l'époque du Moyen-Âge, au moment du féodalisme, on a toute une série de droits fondamentaux qui existent sur les terres, les droits de pacage, les droits de ramasser du bois mort, les droits de glanage, toute une série de droits fondamentaux qui permettent aux populations les plus pauvres de survivre sur les terres. Et lorsqu'on sort de ce féodalisme et qu'on passe dans un autre système économique, une autre façon, un autre régime économique, eh bien, ce passage, il est caractérisé par une suppression de ces communs. On va supprimer ces droits fondamentaux, ces droits d'usage, ces communs, sous l'argument de dire on va durcir la propriété, la rendre exclusive, la propriété des terres, et ainsi on augmentera la productivité. Alors ça se passe au XVe siècle à peu près, en Angleterre, au départ, la productivité dont il est question, c'est de la laine de mouton. Et donc on va exclure, on va supprimer ces droits fondamentaux, les terres vont être exclusives, on va les enclore, on va les clôturer, donc il n'y aura plus de droits de pacage, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça le mouvement des enclosures.
Qui c'est qui a dit le premier homme qui... a enclos un terrain et qui a dit « ceci est à moi » était un criminel.
Rousseau.
Voilà.
C'est Rousseau, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont porté ça. Marx a fait un célèbre article sur le problème du ramassage du bois. Bon, il y a toute une série d'auteurs qui ont travaillé là-dessus.
Je vous avais interrompu, je vous laisse reprendre le fil de votre exposé.
Alors, si je reprends le fil, donc, de quelle propriété parle-t-on ? Il y a toute une série de propriétés qui sont différentes. C'est pas pareil d'être propriétaire d'une voiture ou d'avoir de la propriété intellectuelle. Hein, vous voyez, il y a pas, c'est la propriété sur des biens matériels ou immatériels, ça va poser un premier problème. Il y a un second problème qui se pose avec la propriété, c'est l'accumulation de la propriété sans limite. L'accumulation que l'on constate.
Comme Monsieur Bolloré, par exemple.
Par exemple. Et John Locke, qui est un auteur donc du XVIIe siècle, disait « Si l'on passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu'on en a besoin, on prend sans doute ce qui appartient aux autres. » Donc, il faut une limite aussi à cette appropriation. C'est le problème des inégalités. Mais bon, ce sera l'occasion d'une autre émission.
Oui, certainement. Oui, je ne sais plus qui c'est qui disait « Quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limite ». Je crois que c'était Francis Blanche. Mais ce n'est pas John Locke. Alors, avant d'en venir à cela, ces inégalités, est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la propriété ?
Alors, la définition, elle est donnée par
le... C'est politique, non, cette définition ?
Politique. Je ne sais pas si... Enfin, la définition, elle n'est pas politique, elle est juridique, mais ensuite, elle va être instrumentalisée. Politiquement, je le dirais plutôt de cette façon-là. La définition, elle est inscrite dans le Code civil de 1804. La propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'article 17, il est précisé que la propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé. Si ce n'est, bien sûr, lorsque la nécessité publique l'exige et lorsque l'individu, dans ce cas-là, est
indemnisé.
Voilà, reçoit une indemnité. Mais donc, la propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Donc, quand je suis propriétaire d'une chose, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, de l'aliéner, de la détruire. Et ça va être important parce que ça va apporter ensuite toute la politique et tout le discours économique par la suite. Lorsque je suis propriétaire, j'ai le droit d'exclure les autres de ma propriété. Si je suis propriétaire de ma voiture, j'ai un droit absolu dessus, je peux la démonter, la détruire. Et en plus, je peux vous exclure de l'utilisation de ce bien matériel. Donc, il y a un droit d'exclusion qui va être extrêmement important. Alors, cette perception de la propriété, elle est aussi remise donc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est repris par la Constitution de 1958 et qui considère que la propriété est un droit naturel et imprescriptible.
Pardon, je vous coupe, mais est-ce qu'il n'y a pas des notions en fonction des latitudes ou des pays sur ces choses dont on peut être propriétaire ? Par exemple, je crois qu'au Royaume-Uni, on n'est jamais propriétaire du sol, même si on a une maison, c'est propriété de la couronne. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise.
Alors,
ou si vous êtes en Afghanistan, moi je suis taliban, ma femme, c'est ma propriété. Alors là, vous allez hurler, mais c'est ce qu'ils considèrent en tout cas. Donc c'est variable selon la notion de choses dont on peut être propriétaire est très variable.
Alors, c'est-à-dire que chaque chose n'est pas sujet à être propriété ou pas dans son essence. N'importe quelle chose, je vais le dire comme ça, n'importe quel bien, n'importe quel patrimoine, n'importe quelle chose, y compris les êtres humains, peuvent être soit de la propriété, soit de la non-propriété. Ça ne dépend pas de l'essence de la chose en question. Ça dépend des règles et des institutions dans lesquelles on se situe, et géographiquement et historiquement aussi.
Parce qu'autrefois, des hommes, il y avait des esclaves, hommes ou femmes, peu importe.
Mais, oui, et puis il y a par exemple certaines régions, je pense à l'Afrique subsaharienne, où la propriété foncière était inconcevable jusqu'il y a peu, hein, il y a jusqu'aux années 90 à peu près. Donc la propriété, la notion de propriété, elle ne relève pas de l'essence de la chose en question, elle relève plutôt de ce qu'on met par-dessus, des règles que l'on met sur cette chose.
Vous voulez pas que nous fassions une première pause musicale pour digérer, pour réfléchir à toutes ces notions que nous fréquentons au quotidien, mais qui effectivement méritent d'être réfléchies. Alors cette première pause, c'est vous qui l'avez choisie, donc je vous laisse la présenter.
Eh bien, moi j'ai choisi une chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco, parce que c'est justement l'histoire d'une maison bleue dont personne n'est propriétaire.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi.
Voilà, cette maison bleue qui n'appartient à personne, le choix de ma partenaire Anisla, et nous parlons bien évidemment, vous l'avez compris, de la propriété. Alors cette propriété, est-ce que c'est quelque chose, une loi naturelle de la société?
Alors les économistes du droit naturel, enfin ce qu'on appelle, ou les juristes du droit naturel,
alors qu'est-ce que c'est, comme, le droit naturel,
comme John Locke, ouais, ou Grotius, enfin du XVIIe siècle, vont dire... On va raisonner de la façon suivante. Au départ, on considère que la terre est un commun, donc Dieu donne la terre en commun à l'homme. Et ensuite, l'homme, par son travail, va valoriser cette terre et donc va pouvoir se l'approprier. Donc tout ce qui est tiré de l'état de nature par le travail appartient à celui qui travaille. À partir du moment où je valorise, donc cela m'appartient. Donc c'est en quelque sorte une loi naturelle. Et beaucoup d'économistes vont considérer que c'est une loi naturelle qui émerge dans les sociétés. Plus les sociétés deviennent efficaces, plus elles développent les droits de propriété. C'est par exemple la thèse de Douglas North qui a été prise de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel en 1993. Donc récemment, qui va montrer que l'histoire économique, enfin, qui va vouloir montrer, que l'histoire économique montre que ce sont les sociétés qui ont le plus développé les droits de propriété qui ont le plus prospéré. Parce que la propriété permet d'accroître la productivité.
Ça veut dire qu'une société qui serait socialiste ou communiste ne progresserait pas ou beaucoup moins ? Parce que justement, il n'y aurait pas cette notion de propriété individuelle ?
Oui.
La propriété collective, donc, ne conduit pas à l'enrichissement, comme que préconisait M. Guizot.
Oui, c'est la pensée de la majorité des économistes, de ce qu'on appelle les économistes mainstream. Vous avez des auteurs comme, par exemple, Alchian et Demset, Armen Alchian et Harold Demset, qui vont théoriser, qui vont construire une théorie des droits de propriété. C'est eux qui ont fourbi aussi les armes pour la politique libérale. le néolibéralisme, et ils vont essayer de montrer que la propriété privée, en vertu justement de son caractère exclusif et transférable, est le meilleur moyen de valorisation des ressources. Toute propriété commune ou collective, en raison de son caractère non exclusif, conduit nécessairement à une surexploitation des richesses et vont conduire à de l'inefficience et de l'externalité.
Est-ce qu'il peut y avoir des biens communs qui ne soient pas, qu'on ne puisse pas rentabiliser, qui ne rentrent pas dans le circuit économique ? Par exemple, on a vu cette pandémie qui nous a amené quand même à réfléchir sur certaines choses. Est-ce qu'on peut dire que la santé est un bien commun ? Est-ce que ça a du sens ? Économiquement parlant, certainement pas. Si.
Alors, ça dépend de quel point de vue on se situe. Déjà, moi, je n'aime pas du tout l'expression « bien commun ». Parce qu'un bien, juridiquement, c'est une chose aliénable et appropriable. Et commun, c'est quelque chose qui est au-delà de la propriété. C'est ni de la propriété privée, ni de la propriété publique, ni de la propriété collective. C'est hors de la propriété. Donc déjà, cette expression... moi, elle me gêne un peu parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, je préfère parler carrément de commun. Est-ce que la santé est un commun ? Quand, par exemple, en 1945, on met en place la sécurité sociale, on peut considérer qu'on met en place un commun, c'est-à-dire quelque chose qui est géré par la communauté nationale, en l'occurrence, et qui va permettre... de gérer le risque de santé des individus, bien sûr avec grâce aux cotisations qui sont faites. Hein. Et donc c'est une gestion, on peut considérer que c'est un commun, puisque c'est une gestion collective et démocratique de cette ressource, de ce patrimoine qu'est la santé.
Merci.
Donc voilà. Alors, à partir du moment... Donc, où on considère que la propriété permet d'augmenter la productivité, permet d'augmenter l'efficacité, eh bien, naturellement, hein, j'ai envie de dire, si je parlais comme un économiste orthodoxe, naturellement, on va développer les droits de propriété au fur et à mesure que les sociétés se développent. Donc, on va appliquer des droits de propriété, bon... On en a parlé tout à l'heure sur la terre avec le mouvement des enclosures. Et puis ensuite, il va y avoir, si je fais un grand bond dans l'histoire, les droits de propriété intellectuelle. Ça, c'est les années 1990. Donc, c'est relativement récent. Et puis, on va parler de la propriété de l'entreprise aussi. Donc, on va parler de propriété. On va développer la notion de propriété au maximum de choses possibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer ces choses-là dans le marché.
Autrement dit, tout devient propriété ou potentiellement on peut le devenir.
Oui, tout devient propriété, tout devient quelque chose qu'on peut acheter ou vendre sur les marchés. Parce que vous comprenez bien que si on considère que le marché est le système le plus efficace pour produire des richesses et pour les répartir, pour aller sur un marché, je ne peux acheter et vendre que ce dont je suis propriétaire. Donc, pour développer les marchés, eh bien, il va falloir développer les droits de propriété.
Reste à savoir s'il faut effectivement produire des richesses et surtout toujours plus.
Oui, alors ça va être une notion... le problème de la croissance quantitative voilà. dont on a déjà parlé.
Mais qu'il y a des limites physiques que bien souvent les économistes ignorent, parce que pour eux, ils sont dans leur système. Mais la physique, la Terre étant un milieu fermé qui répond à des règles physiques, ça n'a pas l'air trop d'affecter les économistes, cette notion.
Non, d'autant que les économistes raisonnent entre économistes.
Oui, c'est bien le problème.
Il y a peu d'économistes, moi j'en fais partie, mais il y en a peu qui considèrent que lorsqu'on fait de l'économie, on a nécessairement besoin d'une démarche pluridisciplinaire. Et donc de faire appel non seulement aux sociologues, aux historiens, aux juristes, etc., mais aussi aux physiciens, à ceux qui travaillent sur les limites de notre planète. Mais au-delà de la destruction de la planète, il y a aussi la question qui va se poser de la propriété des moyens de production. Parce qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire des moyens de production, c'est-à-dire de la terre ou de l'entreprise, pour le dire de façon serrée, eh bien, à partir du moment où vous êtes propriétaire des moyens de production, votre richesse se construit sur le travail des autres, grâce au travail de ceux qui travaillent avec vos moyens de production.
Donc c'est ce qui a démarré avec ces fameuses enclosures au XVe siècle en Angleterre que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, c'est ce qui démarre avec les enclosures. C'est pour ça que beaucoup d'auteurs comme Helen Mexis Wood considèrent que c'est vraiment la caractéristique du passage dans un système capitaliste, parce que ça modifie les rapports sociaux entre les individus. Hein, on n'a plus du tout le même système qui est en place. Donc ça commence avec les enclosures. Et aujourd'hui, si on prend par exemple l'entreprise, il y a aussi cette idée que les entreprises appartiennent aux actionnaires. Donc sont la propriété des actionnaires. Et ça, c'est une vision relativement récente. C'est une vision qui date des années 1980 à peu près. Donc ça veut dire que ce sont eux qui détiennent les entreprises, et l'entreprise donc devient une marchandise qu'on peut vendre et acheter sur les marchés boursiers.
Enfin, l'actionnaire, oui, c'est le propriétaire naturel de l'entreprise, puisque c'est lui qui a mis des sous pour en faire ce qu'elle est.
Non, parce que c'est pas le propriétaire. Alors oui, en disant cela, vous avez un langage d'économiste dominant, j'ai envie de dire, parce qu'une entreprise, c'est pas que du capital, c'est pas que des sous, c'est aussi du travail. Et d'ailleurs, en droit, personne ne peut être propriétaire d'une société. Bon, il n'y a pas de définition juridique de l'entreprise, mais d'une société, personne ne peut être propriétaire, parce que une société, une entreprise, c'est une personne morale qui est constituée de capital et de travail. Si vous êtes propriétaire de l'entreprise, ça veut dire que vous êtes propriétaire du capital, mais aussi du travail. Et être propriétaire du travail, ça s'appelle l'esclavagisme. Personne ne peut être propriétaire en droit d'une personne, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale.
Donc, on est propriétaire du produit du travail de cette personne.
Non plus. Quand on est actionnaire, on n'est propriétaire que de ses actions.
Voilà, et on attend la distribution éventuelle de dividendes.
La distribution.
Le reste, ça plante de l'abus de biens sociaux si on tape, comme je dirais vulgairement, si on tape dans la caisse.
Oui, oui.
Ce qui veut bien dire qu'on n'a pas un droit direct sur la société. On n'a qu'un droit direct sur ce qu'elle veut bien vous accorder, au niveau de ses bénéfices éventuels.
Oui, alors, ce qu'elle veut bien vous accorder, alors le problème, ça va être comment est partagé le pouvoir dans l'entreprise, qui décide. Ça n'a pas toujours été les mêmes qui décidaient au sein de l'entreprise. Mais là, je pense qu'on pourrait aussi faire une émission que sur l'entreprise et l'évolution de l'entreprise. Quand on voit pour le dire quand même brièvement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui décident sur l'avenir de l'entreprise, je parle des grosses entreprises, hein, je parle pas des petites entreprises, des très petites entreprises ou de l'artisanat. Mais dans les grosses entreprises, là où il y a des actionnaires, ceux qui ont le pouvoir de direction aujourd'hui, ce sont les actionnaires. Hein? Donc ils vont décider.
Les actionnaires qui peuvent avoir des visions différentes, et surtout si ce sont des financiers ou des fonds de pension américains ou autres d'ailleurs, par exemple.
Et donc les économistes vont avoir pour rôle, comme ils considèrent que ce sont les actionnaires, les propriétaires naturels, ça c'est Milton Friedman, les propriétaires naturels de l'entreprise, et bien puisque ce sont eux les propriétaires naturels, il va falloir aligner les intérêts des salariés, des dirigeants sur les intérêts des actionnaires. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va mettre en place ce qu'on appelle des incitations, c'est-à-dire que par exemple, on va payer les dirigeants sous forme de titres financiers, de stock options par exemple, donc,
ça s'appelle une carotte.
Oui, mais ça s'appelle aussi transformer chaque membre de l'entreprise en actionnaire. Et comme ça, si tout le monde est actionnaire, tout le monde a le...
Ça s'appelle une coopérative à ce moment-là.
Non, ça s'appelle pas une coopérative parce que l'objectif, il est défini par la finance, uniquement par la finance.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de vision industrielle ou de démarche industrielle. Aujourd'hui, on considère que seule la rentabilité est importante au regard des actionnaires. Mais on ne cherche pas un développement, par exemple, dans la durée, ce qui nécessiterait peut-être qu'on laisse un peu plus d'argent et qu'on en distribue un peu moins aux actionnaires.
L'objectif principal aujourd'hui dans les grosses entreprises, c'est la valorisation boursière.
Oui.
C'est-à-dire faire de la valeur sur les marchés boursiers.
Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Parce que faire de la... c'est du court-termisme. On ne vise pas le long terme en faisant cela.
Oui, bien sûr, c'est du court-termisme, mais l'objectif n'est pas de viser du long terme quand on fait de la valorisation boursière. Il y a des auteurs, dont un s'appelle Tristan Auvray, et il a deux autres co-auteurs avec lui, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle « L'entreprise liquidée ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise n'est plus considérée comme un projet collectif de production dans le long terme, avec toute une série de valorisations croisées. C'est-à-dire, on va valoriser le produit, on va valoriser le travail, on va valoriser l'action aussi, l'action boursière. C'est désormais uniquement une valorisation boursière, c'est-à-dire qu'on va acheter ou vendre l'entreprise sur un marché. Ça fait partie du portefeuille des investisseurs, des fonds de pension ou des autres investisseurs institutionnels.
Et cette autre forme de propriété qu'on a évoquée en début d'émission, mais qui peut faire partie des actifs de l'entreprise, la propriété intellectuelle, ça c'est quelque chose d'un peu particulier et dont on n'a pas la même définition, par exemple, avec les pays anglo-saxons, qui ont une approche assez différente de cette notion.
Alors, cette notion, elle s'est quand même largement unifiée au moment de la signature en 1994 du traité ADPIC, hein, le traité sur les droits de propriété intellectuelle. Mais c'est vrai qu'on avait des visions complètement opposées, enfin pas opposées, mais différentes de cette propriété intellectuelle. Alors, excusez-moi, je trie un peu dans mes...
Oui, mais vous avez beaucoup de notes devant vous.
J'ai beaucoup de notes devant moi pour essayer de rien oublier. Mais comme vous me posez des questions sans arrêt, je dois changer mon plan de temps.
Voilà, non, pardon, je perturbe.
Voilà, vous perturbez l'homme. Donc, la propriété intellectuelle, là aussi, c'est une expression bon, qui existe depuis longtemps, mais qui va être largement diffusée à partir des années 90 pour faire comme si propriété intellectuelle ou propriété des biens matériels, c'était à peu près la même chose, pour les considérer de la même façon. Alors, la propriété intellectuelle, d'abord, avant de poursuivre, qu'est-ce que c'est? C'est les droits d'auteur et de copyright, les marques et les indications géographiques, comme les AOP, ces choses-là, et les fameux brevets.
Et les dessins et modèles aussi.
Pardon ?
Et les dessins et modèles.
Oui, mais bon, qu'on peut mettre selon dans les droits d'auteur, enfin bon, et les dessins et modèles, si vous voulez rajouter une quatrième catégorie. Alors, l'idée, c'était donc de dire... C'est toujours le même raisonnement. Comme la propriété permet de marchandiser les choses et donc d'augmenter la productivité, comme la richesse aujourd'hui de l'Occident est principalement immatérielle, eh bien, il va falloir développer les droits de propriété intellectuelle. Alors, on voit ce mouvement donc apparaître dans les années 90-80, par exemple, avec la recherche génétique. De nombreuses sociétés de biotechnologie ont vu le jour pendant les années 1980 et ces entreprises n'avaient rien à vendre si ce n'est leur découverte. Hein, parce qu'un gène, on ne le fabrique pas, on le découvre. Après, bien sûr, on peut le manipuler, mais on le découvre au départ. Et donc, on a permis le brevetage de l'ADN humain pour permettre à ces sociétés de capitaliser sur leurs brevets. Donc de lever des fonds sur le Nasdaq, de lever du capital risque, etc. Et pour ne pas pénaliser la recherche sur le vieux continent, eh bien l'Europe a suivi. Et à partir de 1998, il y a une directive européenne qui va autoriser le brevetage des gènes, à condition que leur utilité médicale ait été prouvée.
On brevette à ce moment-là la découverte.
On brevette une découverte et on ne brevette pas une invention.
Oui, ce n'est pas une création intellectuelle, ex nihilo, non. C'est un inventeur. Voilà, j'ai découvert ceci, donc je le protège et c'est désormais ma propriété, je peux l'exploiter.
Oui, oui. Alors, il y a des chercheurs qui vont être réticents à cela. Hein. Par exemple, vous avez un chercheur, bon, j'ai pris celui-ci, mais il y en a d'autres, hein, Marco Mara, qui avait séquencé le génome du virus du SRAS, hein, c'est un peu d'actualité, dans ces années-là, dans les années 90. Aussitôt, la firme dans laquelle il travaille va breveter sa découverte et lui va refuser qu'on y associe son nom. Ce qui va dire, c'est une découverte, c'est pas une invention. Donc, je ne veux pas que mon nom soit associé à un brevet sur un gène.
Un cœur pur.
Un cœur pur. Bon, voilà. Einstein aussi considérait qu'il n'était pas propriétaire de ses équations mathématiques. C'est compliqué quand on est chercheur de raisonner en termes de propriété.
Sur les salariés, ce qu'on appelle une invention de mission, ça revient à l'entreprise qui vous paye.
Oui, alors, si vous voulez, les brevets, les droits des brevets, bon, ça commence au XVIIe siècle en Italie, mais bon, aux États-Unis, c'est 1836. Donc, on va permettre de déposer des brevets sur des inventions. Mais dès 1880, donc quelques années après, les entreprises vont faire signer des contrats à leurs salariés où elles vont bien stipuler que s'il y a une découverte, c'est pour l'entreprise et pas pour l'individu.
Oui, c'est la fameuse invention de mission, voilà. Qui peut peut-être permettre aux salariés de tirer quelques fruits, mais enfin, ils seront extrêmement modestes par rapport à ceux dont va bénéficier l'employeur.
Oui. Et alors, cette politique donc qui se met en place à partir des années 80, largement poussée par les États-Unis et derrière l'État américain, les grosses entreprises, hein, les multinationales qui vont pousser à cette définition du droit de propriété, il va y avoir une date importante en 1986 avec des accords à Punta del Este où on va commencer à dire on peut mettre la propriété intellectuelle dans le droit commercial. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, là aussi, parler de marché.
Donc, c'est une marchandisation de cette propriété intellectuelle. Ça devient, finalement, un bien comme un autre.
Ça devient un bien comme un autre. Pourtant, ce n'est pas un bien comme un autre. Parce que si, par exemple, je considère ma voiture, qui est un bien matériel, si je vous la donne, je la perds. Mais mon savoir, si je vous le donne, je ne le perds pas. Donc c'est pas la même chose, hein, un bien intellectuel et un bien matériel, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, quand je donne mon savoir, en général, j'en récupère plus. Hein, parce que plus on partage du savoir, plus ce savoir se développe. Donc ça peut paraître curieux, et c'était extrêmement curieux, même pour les Européens, hein, avant que les Américains donc poussent vraiment dans ce sens-là, mais c'est quand même assez curieux de mettre un droit de propriété exclusif, hein, parce qu'on a défini la propriété tout à l'heure, sur un bien que l'on ne perd pas quand on le transmet.
Non, mais ça permet de le valoriser, donc de le vendre et donc de faire de l'argent.
Oui, de le vendre et de créer un marché dessus.
Oui. Ah ouais.
Voilà, de faire des profits dessus, bien sûr. Mais ça permet aussi, le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va effacer toutes les questions qui peuvent aller avec ces droits de propriété. Par exemple, si je prends l'exemple de la santé, on va dire, bon, ben, on va mettre des brevets pour découvrir plus vite, etc. Bon, ce qui n'est pas complètement prouvé, hein, jusqu'à présent, mais bon.
Ça veut dire surtout que si chaque firme pharmaceutique, puisque c'est l'exemple que vous prenez, ne communique pas avec les autres, chacun garde par devers soi son savoir, il n'y a pas de mise en commun, donc il n'y a pas cette excitation intellectuelle productive que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, parce qu'on sait très bien que, du point de vue intellectuel, plus on coopère, plus on est productif.
Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc ça veut dire que notre système économique mondial, finalement, il n'est basé que sur la propriété, que si on refuse de rentrer dans ce système, il n'y a pas de salut. Ou on y est ou on n'y est pas. Si on n'y est pas, on est marginalisé, voire écrasé.
Oui, si on n'y est pas, on est écrasé. Ou alors on va aussi pouvoir... Il y a quand même des États qui vont lutter, hein, par exemple... Je me rappelle du gouvernement de Mandela qui avait dit bon ben la propriété, les brevets sur les médicaments du SIDA, non, nous on va développer des médicaments génériques. Et Mandela a été mis en procès. Bon, comme c'était Mandela, il y a eu un tollé international et les firmes pharmaceutiques ont reculé parce que elles ne voulaient pas de cette contre-publicité. Il faut bien se rendre compte aussi que de dire que hors point de salut, hors de la propriété, c'est une devise qui est tout de même un peu malhonnête. Certes, on peut considérer qu'une économie ne peut fonctionner sans un système de droit, de propriété bien défini, comme Alchian, comme Sète, mais on peut aussi réfléchir à mettre en place un système organisationnel pour organiser une gestion commune. Il faut bien se rendre compte tout de même que les brevets, par exemple, si je prends les brevets, c'est une forme légale de monopole absolu. Et que ces brevets, ils vont permettre une concentration des pouvoirs. Hein. C'est grâce aux brevets qu'on a, par exemple, ce qu'on appelle Big Pharma, hein, cette quinzaine de laboratoires pharmaceutiques qui chapeautent tout ce domaine-là. Donc, on pourrait aussi réfléchir à une autre façon de fonctionner, à une autre façon de... on pourrait se dire aussi, est-ce que les brevets, est-ce que ces droits de propriété intellectuelle, c'est pas un droit de colonisation législative aussi, hein, c'est ce que dit un auteur comme Stalimann. Quelles sont les questions qu'il va y avoir sur les semences, par exemple, sur la brevetabilité du vivant? Dans tous les traités aussi, hein, aujourd'hui, dans tous les traités, il est précisé qu'on peut supprimer les brevets de façon temporaire si la situation l'exige. On aurait pu faire ça, par exemple, pour les vaccins contre la Covid-19. Biden l'avait juste suggéré, mais la discussion a fait long feu. Ça en est vite revenu à autre chose. Donc, bon, il y a d'autres façons de procéder aujourd'hui que ce développement de la propriété qui, non seulement n'est pas si efficace que ça, notamment en termes de propriété intellectuelle, mais aussi va conduire à une accumulation extrêmement importante et un problème sur la nature, hein, sur la destruction de la nature. Donc on peut aussi réfléchir à autre chose que la propriété, c'est-à-dire le commun. Mais là, il faudrait faire une autre émission. Donc je vous promets...
Mais nous la ferons, Anne.
On fera une autre émission là-dessus.
Sur, effectivement, ces communs. Merci de ces développements. Sonner de nos rubriques de fin d'émission, bien qu'on ne soit pas tout à fait encore à la fin d'émission. Alors l'économie en Occitanie, quelques données. Bien, la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Haute-Garonne, c'était le mardi 12 octobre, c'est pas si vieux, organiser une journée de job dating. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut entendre par ce terme anglo-saxon. Puisqu'ils ont quelques difficultés de recruter, ils ont 4500 postes à pourvoir sur Toulouse et sur le département de la Haute-Garonne. Donc vous voyez qu'il y a un peu de matière pour ceux qui voudraient se lancer dans le bâtiment. Les derniers résultats sur la situation économique de l'Occitanie sont encourageants. Ils nous indiquent une reprise de l'activité dans la région et dans la grande région. Vous savez qu'elle est tout à fait grande aujourd'hui. Selon le dernier point de conjoncture de l'INSEE pour le deuxième trimestre 2021, la reprise s'accélérerait nettement. Et en effet, l'emploi salarié progresse vivement en Occitanie, plus 27 100 emplois par rapport au trimestre précédent, ce qui fait plus 1,3% et qui dépasse son niveau d'avant-crise. Il augmente aussi très fortement dans l'hébergement et dans la restauration, plus 11 700 emplois de plus que par rapport au trimestre précédent, augmentation de 15%. Et ça continue de progresser dans le commerce et les services aux entreprises et aux particuliers, tout en se stabilisant dans l'industrie et la construction. Néanmoins, et ça, alors c'est quand même assez paradoxal, mais peut-être que Anne, vous allez nous l'expliquer, le taux de chômage reste stable à 9,4% de la population active. Avant, on était à 9,5% avant la crise. crise et les demandeurs d'emploi demeurent plus nombreux qu'avant la crise. Alors si on se regarde, c'est écrit l'URSSAF qui a annoncé plus de 2,5 millions d'embauches en de plus d'un mois ont été enregistrés au troisième trimestre en France, la moitié en CDI. Donc c'est un pic qu'on n'avait jamais vu en France depuis 2000, ces embauches. Comment vous expliquez qu'il y a ces besoins, que l'on embauche, mais que le nombre de chômeurs reste stable ?
Parce qu'on est dans une situation extrêmement particulière. On a eu aussi beaucoup de débauches dans la restauration et dans l'hébergement avec la crise sanitaire, les confinements, etc. etc. Donc c'est normal que, vu la baisse qu'il y a eu, c'est normal qu'aujourd'hui ça réaugmente par rapport à l'année dernière. Moi, ce sont des chiffres qui m'étonnent absolument pas. Et par contre, on reste à un taux de chômage identique parce que justement, ces augmentations, c'est simplement un petit rétablissement par rapport aux chutes qu'il y avait eu jusque-là.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a parce qu'on parle parfois de plafond de verre dans un autre domaine, est-ce qu'il y a un taux de chômage incompressible et qu'on n'arrivera jamais à réduire ?
Non, je ne pense pas, puisqu'il y a eu des moments dans l'histoire où on l'a réduit fortement, des moments où il y avait quasiment le plein emploi. Donc, dire que le chômage est une fatalité qu'on ne pourra jamais réduire, je ne pense pas. Par contre, dire que les politiques que l'on est en train de mettre en place depuis 30 ans ne servent pas à lutter contre le chômage, oui, je le pense. Donc si on continue comme ça, ça ne bougera pas.
Oui, donc là, il y a quand même beaucoup de travail à faire.
Oui.
Si beaucoup de secteurs sont en déshérence, on a dit dans le bâtiment 4500 postes à pourvoir rien qu'en Haute-Garonne. On voit aussi qu'en matière de restauration, beaucoup de restaurateurs se plaignent, ils ne trouvent pas de serveurs. Si les salaires étaient plus élevés, est-ce que les gens n'iraient pas plus volontiers ?
Oui, il y a une histoire certainement de salaire et de conditions de travail en général qui certainement rebute certaines personnes. Travailler dans la restauration, c'est extrêmement difficile. Les horaires sont extrêmement difficiles et les rémunérations ne vont pas avec.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'idée qui m'a pour ma part, paru parfaitement saugrenu de Macron de dire on va pouvoir donner des pourboires avec sa carte bleue. Ça paraît totalement surréaliste, voire poétique presque. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, économiste ?
Ben, ça m'inspire que les pourboires pourront être imposés.
Oui, ça, c'est la première chose. Mais enfin, vous voyez, de donner votre carte bleue au serveur en disant je te donne 5 euros ou 2 euros et tu les prélèves sur ma carte bleue. Ça n'a pas de sens.
Bah, Emmanuel Macron a toujours dit il faut une société numérique, donc il faut tout numériser. Donc les pourboires font partie.
Sinon on devient des amiches, comme il avait dit.
Sinon on devient des amiches.
Ce qui prouve qu'il a une vision de la société qui malheureusement est bien faussée, ce qui est un peu gênant puisque c'est le président de la République.
Mais ça, c'est tout le débat des présidentielles que l'on a en ce moment.
Voilà, qui commence doucement, mais ils ne sont pas très axés là-dessus. Hein. On parle d'immigration, on parle de choses qui ne sont pas de vrais problèmes et que l'on crée plus que, par la parole plus que la réalité ne prouve que...
Il faudrait remettre au goût du jour les débats politiques.
Oui, en fait, il faudrait que les politiciens en soient capables surtout. Ce qui est un autre débat que nous aurons peut-être un jour et peut-être dans l'émission politique de la station Ça va mieux. On en arrive au traditionnel conseil culturel que nous donnons. Alors Anne, qu'est-ce que vous nous conseillez de voir, de faire, d'écouter ?
Alors moi je vous conseille un petit livre qui a une dizaine d'années mais qui est extrêmement d'actualité, qui est d'Hélène Mencius Wood. Un nom imprononçable pour moi, mais qui s'appelle « L'origine du capitalisme, une étude approfondie ». Donc, qu'est-ce que le capitalisme ? Cette question, l'histoire la pose chaque fois que ce système entre en crise, et on est bien en crise aujourd'hui, et étale au grand jour ses absurdités. Donc, pour y répondre, il faut comprendre les origines, et voilà ce que propose cet auteur dans cet ouvrage. Alors, bien sûr, personne ne niera que le capitalisme a permis à l'humanité d'accomplir des avancées notables sur le plan matériel, mais il est devenu aujourd'hui manifeste que les lois du marché ne pourront faire prospérer le capital qu'au prix d'une détérioration des conditions de vie d'une multitude d'individus et d'une dégradation de l'environnement partout dans le monde. Donc, il importe de comprendre comment ce système est apparu et comment il se développe.
Peut-être qu'il va trouver sa progression qui est complètement débridée, freinée par justement l'environnement dont on parlait tout à l'heure, parce que avec la déplétion des matières premières, et je vais y venir, avec la pollution, avec le réchauffement climatique, il se pourrait que le système capitaliste en lui-même se dérègle comme se dérègle le climat.
Mais si vous voulez, moi je pense que c'est une course de vitesse. Hein. Le système capitaliste n'est pas éternel, comme aucun système. Hein. Le système féodal n'était pas éternel non plus, donc il va s'arrêter un jour. L'idée, ce serait bien qu'il s'arrête avant que l'humanité soit détruite.
Oui.
C'est une course de vitesse entre la planète et ce système-là,
ce
me semble-t-il.
Mieux, mais... Mes travers collapsologues ne me rendent pas très optimiste sur l'avenir. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre, c'est un petit livre qui s'appelle « Pétrole, le déclin est proche », qui a été écrit par Mathieu Ozano avec l'aide d'Hortense Chauvin, publié au Seuil Reporter, qui est aussi une maison d'édition. Alors Mathieu Ozano, on l'a connu, et d'ailleurs ici vous vous souvenez peut-être, certains auditeurs, que nous avons fait une émission avec lui sur son magistral ouvrage qui s'appelle « L'or noir ». Mathieu Ozano est l'un des meilleurs spécialistes français du pétrole aujourd'hui, et il revient pour une piqûre de rappel avec ce petit livre qui nous permet de mieux comprendre les enjeux actuels dans le domaine de cette énergie si importante pour notre quotidien, une énergie qui est toute bête finalement puisqu'elle est issue de la dégradation de plancton et de bactéries au fond de lagunes et de mers archaïques. Quand on dit ça, on ne s'imagine pas que le pétrole ce n'est que ça, et pourtant. Et dans ce livre, il met l'accent sur l'inéluctable déplétion du pétrole. Il faut bien regarder les choses en face. L'ère de l'abondance et de l'énergie peu chère touche à sa fin. Et si l'économie n'anticipe pas ce sevrage, les conséquences risquent d'être très sévères. Et on constate qu'elle n'anticipe pas du tout. Et de même que nous allons assister à des bouleversements géopolitiques assez considérables qui vont découler de cela. Et au passage, pour revenir sur l'or noir qui est une somme, mais si vous voulez comprendre l'histoire des relations internationales depuis 150 ans, si vous voulez comprendre comment notre civilisation s'est créée, parce qu'elle est entièrement basée aujourd'hui sur ce fameux pétrole, eh bien, lisez ce livre qui est pour moi incontournable, « L'or noir » de Mathieu Ozano. C'est un livre un peu épais, mais très franchement, c'est toute notre histoire et ça se lit comme un polar. Donc, une lecture extrêmement profitable. Alors, on rappelle votre livre, Anne, c'était... Je vous laisse prononcer le nom. On va l'appeler Hélène Wood, « L'origine du capitalisme, une étude approfondie ». Oui. Qui est publié chez Lux Collection Humanité, ce sont des Québécois. Et puis je vous rappelle le mien, petit livre mais percutant, qui va vous donner une très bonne vision de ce qui se passe aujourd'hui, « Le pétrole, le déclin est proche » au Seuil de Mathieu Ozano et de sa complice Hortense Chauvin. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Anne. Merci également à Tiff Henlemen qui est aux manettes. Donc c'était Economica, une émission de Jacques Lavergne et d'Anisla. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous les autres podcasts de toutes les autres émissions, bien sûr, sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir Anne.
Au revoir.